Chapitre 30. La deuxième semaine de mai 1941, 7 mois avant Pearl Harbor et l'entrée des États-Unis dans la guerre qui faisait rage en Europe depuis 2 ans, j'étais parti faire de l'escalade dans le massif du Grand Teton avec Charlie, mon ami médecin, et sa jeune épouse Dorcas. Leur suite nuptiale à Jenny Lake nous tenait lieu de camp de base. Lorsque je lus que Rudolf Hess, l'adjoint du Führer et deuxième personnage le plus puissant du Troisième Reich après Hitler, et l'homme silencieux aux sourcils mobiles qui se trouvait à notre table, dans la brasserie munichoise, à côté du SS Sturmbannführer Bruno Siegel, avait volé un appareil de l'aviation allemande pour rejoindre la Grande-Bretagne et sauter en parachute au-dessus de l'Écosse. Les faits rapportés dans le journal étaient sommaires et confus. Le Messerschmitt Bf 110D de S avait été spécialement équipé de réservoirs largables, lui permettant de parcourir une plus grande distance. L'homme était seul dedans. Repéré par des radars britanniques et suivi par des Spitfire et autres avions de chasse envoyés pour l'intercepter, S avait volé à très basse altitude, échappant ainsi aux radars et à ses poursuivants, puis de manière erratique au-dessus de l'Écosse. Il avait rasé Kilmarnock, était remonté en survolant le Firth of Clyde, puis avait viré pour repartir vers l'intérieur des terres, avant de finir au-dessus de Fenwick Moor. Le radar d'interception britannique, un appareil encore top secret à ce stade, avait signalé que l'appareil s'était écrasé quelque part au sud de Glasgow, mais S avait eu le temps de sauter en parachute, atterrissant dans le village d'Eaglesham en se blessant la cheville dans sa chute. S avait été arrêté et jeté en prison. C'est tout ce qu'on avait su de son étrange fuite en Grande-Bretagne ce printemps 1941. Après Pearl Harbor, mon ami Charlie s'était engagé comme médecin dans l'aviation. À 38 ans et sans compétences particulières à offrir, à part celles acquises durant mes voyages et mes expéditions en montagne, j'avais été rejeté de plusieurs branches de l'armée avant d'être accepté dans un service de renseignement du nom d'OSS, l'Office of Strategic Service. Là, on m'enseigna le grec avant de me parachuter sur des îles du nom de Céphalonie, Thasos, Kos, Spetses et, ma préférée, Hydra. Ma modeste mission consistait à organiser et armer les résistants pour déstabiliser autant que possible les occupants allemands. J'ai honte d'avouer que déstabiliser signifiait la plupart du temps tendre des embuscades à des généraux et autres hauts gradés nazis, puis les assassiner. Je suis fier d'ajouter que je suis devenu assez bon dans mon domaine. C'est dans le cadre de l'OSS pendant la guerre que je tombais sur de nouvelles informations alors classées secret défense, elles le sont toujours aujourd'hui. À propos de la folle fuite de Rudolf Hess en Grande-Bretagne en 1941. Lorsqu'il avait été interrogé par des officiers du Royal Observer Corps à Giffnock, après sa capture près d'Eaglesham, Hess avait affirmé qu'il apportait un message secret de la plus haute importance de la part du Führer Adolf Hitler, mais qu'il ne parlerait qu'au duc de Hamilton. Hess avait été emmené à la caserne militaire de Maryhill Barracks à Glasgow, où il avait obtenu un entretien particulier avec le duc de Hamilton. Tout de suite après cette conversation, le duc avait été emmené par un avion de la RAF à Kidlington, près d'Oxford, puis conduit en voiture à Londres, où, dans le plus grand secret, il avait rencontré le Premier ministre Winston Churchill à Ditchley Park. Cela se passait, ne l'oubliez pas, pendant les heures les plus sombres de la bataille d'Angleterre. Sévèrement battue à Dunkerque, l'armée anglaise avait dû évacuer par la mer, laissant derrière elle la plus grande partie de ses armes lourdes et de trop nombreux soldats morts sur les plages alentours. La France vaincue était occupée depuis le début de l'été 1940. L'Allemagne avait rassemblé plus de 2400 chalands pour convoyer ses troupes et ses divisions de Panzer de l'autre côté de la Manche. Le plan de bataille nécessitait des centaines de milliers de soldats allemands pour envahir l'Angleterre. Des Fallschirmjägern, des parachutistes, devaient être largués près de Brighton et de Douvres quelques heures avant que les chalands et des embarcations de débarquement, protégés par des destroyers et des appareils de la Luftwaffe, ne partent de Boulogne vers Eastbourne, de Calais vers Folkestone, de Cherbourg vers Lyme Regis, du Havre vers Ventnor et Brighton, de Dunkerque et Ostende vers Ramsgate. Mais, murmurait-on, Winston Churchill avait envoyé un ultimatum secret à Hitler ce printemps par l'intermédiaire de l'ancien roi Édouard VIII, qui avait abdiqué pour pouvoir épouser Madame Simpson, une Américaine divorcée. Celui qu'on appelait désormais le duc de Windsor et la duchesse, connu pour ses bouderies, vivait aux Bahamas. Je savais par la OSS que les services de renseignement anglais et le gouvernement de Churchill se méfiaient tellement des sympathies pro-nazies du couple qu'il leur avait interdit de séjourner en France et en Espagne juste avant le déclenchement de la guerre. Tous les services secrets, dont les agences américaines, savaient que même aux Bahamas, le cercle d'amis et l'entourage du duc de Windsor étaient infestés d'espions allemands issus d'une demi-douzaine de services de renseignement nazis. D'après la rumeur que j'entendis en 1943, je me trouvais en Tesprossi, occupé à organiser l'assassinat d'officiers italiens, bulgares et allemands, et à zigouiller des Albanais Cham et des membres du Parti national-socialiste grec, qui aidaient et soutenaient les occupants. Churchill avait envoyé à Hitler, par l'intermédiaire du duc de Windsor aux Bahamas, des preuves que le gouvernement britannique détenait des photos compromettantes du jeune Adolphe. Les clichés ne seraient pas rendus publics si le Führer annulait l'invasion imminente et sinon inévitable de l'Angleterre. D'après mon contact à l'OSS, qui achevait une tournée à Londres, à Cuba et aux Bahamas, et qui connaissait tous les gens impliqués dans cette difficile opération, dont, me dit-il, l'écrivain américain Ernest Hemingway à Cuba, qui, en jouant lui-même à l'espion, s'était retrouvé au milieu des négociations et faisait l'objet d'une surveillance du FBI, de l'OSS et des services de renseignement de la marine américaine. Hitler aurait pris la menace tellement au sérieux qu'il avait dépêché en Angleterre son adjoint et premier homme de main, Rudolf Hess, pour ce voyage secret et sans retour. L'offre de Hitler, telle que me la rapporta mon officier de liaison, était simple. Pas de publication des photos, quoi qu'elle puisse montrer, pas d'invasion de l'Angleterre. Personne ne savait exactement comment la réponse positive de Churchill avait été transmise à Berlin. Pas par le duc ou la duchesse de Windsor aux Bahamas, de cela, mon contact était sûr. Toujours est-il qu'elle avait été reçue. À la fin de l'été, Unternehmensseelöwe, l'opération loup de mer, visant l'invasion de l'Angleterre par la mer et par les airs selon les plans complexes élaborés par Hitler, avait été annulée. D'après l'explication officielle donnée par le gouvernement de Sa Majesté, les Allemands auraient fait machine arrière après l'échec de la Luftwaffe de Hermann Göring à détruire les défenses aériennes anglaises, bien que l'aviation allemande eût presque établi sa supériorité au-dessus de la Manche et détruit la plupart des aérodromes de la RAF quand Hitler avait donné son contre-ordre. De sorte que le sauvetage de l'Angleterre avait toujours été porté au crédit de la bataille d'Angleterre et non pas à l'existence de sept photos compromettantes datant de 1921, remise aux Britanniques après être passé de l'Autriche au Tibet en passant par la Chine et l'Inde. Dans une grotte d'une montagne de la région grecque de Tesprossi, en 1943, je souris, versai quelques larmes et levai ma tasse d'ouzo barbayani, un alcool anisé que je déteste en général, en hommage à 30 vaillants sherpas, à un très jeune et très courageux juif autrichien du nom de Kurt Meyer, à Lord Percival Bromley, à Lady Catherine Christina Regina Bromley-Montfort, au docteur Sushant Rabindranath Pasang, à Richard Davis Deacon et à Jean-Claude Clérou, ces derniers étant les quatre meilleurs amis que j'avais jamais eus et que j'aurais jamais.